Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va découvrir comment sa santé a finalement poussé son employeur à la licencier. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Zineb Hajar, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remarque qu'elle est Zineb. Tout va bien?
Je vais très bien. Merci à toi pour me donner cet espace.
Avec plaisir.
Partage.
Alors, comme on dit chez nous, je remarque Seheha.
Ça va mieux? Ça va très bien, alhamdoulilah.
Ok, alors on est en plein mois d'octobre, c'est le mois rose, en référence à la lutte contre le cancer, à la sensibilisation. Et toi justement, tu as traversé cette maladie?
Absolument, absolument. J'ai traversé la maladie à deux reprises.
Ok.
Donc,
dis-moi, c'était quel type de cancer exactement?
Donc, c'est un cancer du sein
que
j'ai eu en 2013 et j'avais suivi les soins qu'il fallait, j'avais suivi tout le protocole. Et bon, on disait que si après 10 ans, on ne rechute pas, donc ça va aller. Moi, les 10 ans m'ont rattrapé et on m'a diagnostiqué une récidive. Donc, cette fois-ci, c'était un cancer métastatique. Ça a touché quelques organes. Mais alhamdoulilah, la médecine évolue, les traitements sont là, l'accompagnement est là, donc alhamdoulilah.
Tu l'as eu jeune ce cancer quand même, ce cancer du sein?
Je l'ai eu jeune, à la trentaine, j'avais 31 ans.
C'est ça. Et à 31 ans, on ne soupçonne pas du tout un cancer du sein?
Mais pas du tout. Moi, c'était vraiment en prenant ma douche que j'ai senti que j'avais comme une petite bille sous les aisselles. Et je me suis dit, bon, c'est pas normal. Et on me disait, c'est rien du tout. Mais j'avais un pressentiment. Je sais même pas comment l'expliquer. J'avais un pressentiment. Je me disais, c'est quelque chose. Et donc, j'avais été consultée et puis le diagnostic était tombé. On m'avait dit que c'était une tumeur. Et voilà.
Alors, à 31 ans, quand on apprend ça?
Quand on apprend ça à 31 ans, c'est le choc, surtout que je n'étais pas au Maroc. J'étais à l'étranger, donc on se retrouve vraiment seule face à une nouvelle qui est... j'ai même pas de mots pour décrire l'état dans lequel j'étais, mais alhamdoulilah, on a la foi, et Rabbi m'a donné une force et un courage. Et puis aussi, j'étais très bien entourée, donc mes amis étaient là. Je dirais que le poids que j'avais, moi, c'était plus que celui de la maladie, c'était comment l'annoncer à mes parents à l'époque. Comment annoncer à ses parents qu'on a un cancer. Donc au début, j'ai voulu leur même le cacher et affronter les choses toute seule. Donc ça, c'était un point en plus, mais j'ai pu leur dire. Ma mère était venue me voir, mais c'était dur. Mais comme je te dis, j'avais tellement la foi et le courage, j'ai juste accepté la chose et j'ai continué à avancer, à aller bosser en parallèle.
Justement, à ce moment-là, tu as continué une vie professionnelle, une vie... Tu as continué à travailler à ce moment-là?
Oui, j'ai continué à vivre normalement.
Jusqu'à quel moment?
Vu la situation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça c'était, je te parle de ça, il y avait 10 ans déjà.
Oui.
J'avais vraiment continué. J'allais faire ma chimio. Ma chimio était les mercredis matin. Donc, je faisais ma chimio. J'allais bosser jeudi, vendredi. Ensuite, je commençais à ressentir un peu les douleurs articulaire et corporel et tout. Donc, je m'arrêtais quelques jours et je reprenais. Donc, je suivais vraiment mon rythme. Mais c'est ce qui m'a aidé au fait à rester en vie. C'était le boulot, c'était avoir mes amis autour, c'était continuer à vivre. Au fait, c'est on vit différemment, mais on est en vie.
Mais
Donc,
on est en vie, c'est ça, c'est
voilà,
ça.
on est en vie, on en profite comme on peut.
Oui. Alors, quand tu m'as contacté, tu m'as dit, j'ai envie de parler d'un sujet qui est très important, c'est justement traverser la maladie et se faire licencier à cause de sa maladie. Et ça, je vais être honnête avec toi, j'ai rien compris en fait. Et ça, c'est une expérience que
Ouais.
toi, tu as vécue. Alors, tu l'as vécue à l'étranger ou ici au Maroc?
Je l'ai vécu ici au Maroc. Alors,
Donc,
quand
ça,
j'ai été
c'était pour la
diagnostiquée, justement.
récidive.
Absolument. C'était pour la récidive. Donc, j'apprends que j'ai récidivé à 2 semaines avant la rentrée scolaire parce que je suis dans l'enseignement. Donc, 2 semaines avant la reprise, j'apprends que je suis atteinte d'un cancer métastatique. Donc, déjà le choc. Et je contacte ma boss et je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe. J'ai plein de tests à faire, plein d'analyses et tout, mais je vais venir travailler. Je reprends quand même. Et puis on analyse, on voit comment les choses vont se passer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc entre deux rendez-vous, j'allais quand même travailler. Et au tout début, tous les tests qu'on a à faire sont très très lourds. Mais je me suis dit, je l'ai fait une fois, donc je suis capable de le faire une deuxième fois. J'avais la responsabilité d'une classe, je ne pouvais pas venir à la dernière minute et laisser tomber. Et en même temps, j'aimais ce que je faisais, donc je me disais, ça va me donner au fait la force de continuer, de me réveiller tous les matins, de m'occuper un peu l'esprit. Et puis, c'est parti comme ça. Et ensuite, j'ai commencé déjà avant le licenciement à souffrir de tout ce qui venait avec la maladie. Donc, le problème de l'assurance, j'ai découvert qu'on avait un plafond. Donc, après 2 mois et demi de traitement, je vois que mes dossiers maladie ont été rejetés parce que j'avais atteint le plafond. Ensuite, il y a eu les retards de remboursement. Je me faisais rembourser après 3 mois alors que le traitement coûte des dizaines de milliers de dirhams. Et puis, voilà, je pensais avoir le soutien de mon employeur pendant un moment. Et en 2000, 2000, ouais, en janvier 2024, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais été opérée. J'ai dû m'arrêter 3 mois. Et puis, j'ai repris. Et ensuite, on a commencé à voir comment est-ce que je pouvais aménager un peu mes horaires, ce que je pouvais faire et tout selon ma condition. Et donc, on était en train de brainstormer. J'ai continué à aller travailler, à trouver des solutions, à me former également en parallèle. Et donc, j'avais beaucoup à apporter à cet établissement. Et puis, on était vraiment en cours de négociation par rapport à
Trouver une
l'année
solution, ouais.
prochaine, trouver une solution. Et là, on me dit, on m'annonce à 1 semaine du congé que j'ai été licenciée. Voilà, on m'a dit, on a beaucoup d'amour pour toi, mais il y a aussi le business.
Il y a aussi le
Et
business.
voilà, c'était,
Alors.
We have a lot of love for you and there is business. Et voilà, c'est la phrase que j'oublierai jamais.
Donc, ce n'était pas un système
Voilà, donc,
marocain.
non, c'était pas un système marocain.
Géré par des Marocains ou pas?
Entre autres.
Entre autres.
Entre autres. Ouais. Ouais.
Pardon. Alors, on va creuser derrière tout ça parce que. Quand la maladie s'est déclarée, tu n'étais pas au Maroc, tu étais à l'étranger. Tu étais dans quel pays?
J'étais aux États-Unis, mais c'était en 2013.
C'est ça, mais quand. Mais alors,
Ouais.
tu vas me dire que le système de santé aux États-Unis est meilleur qu'au Maroc?
Je dirais pas qu'il est meilleur, je dirais qu'il est différent. C'est-à-dire que d'après mon expérience à moi, il y avait beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, beaucoup de soutien par rapport à ça. Mais après, je ne sais pas si je peux pas généraliser encore une fois. Je parle de mon expérience, ce que moi j'ai vécu là-bas.
Ok, alors est-ce que c'est la maladie qui t'a poussé à rentrer au Maroc?
Et après, donc j'étais en rémission, j'avais guéri et je me suis dit, écoute, la vie est courte, est-ce qu'elle vaut vraiment la peine de la passer loin des siens? Et c'est pour ça que je suis rentrée. C'est vraiment pour être à côté de ma famille. Voilà.
Alors, justement, quand on te licencie avec une déclaration aussi frontale, aussi directe pour cause de maladie, à ce moment-là, comment tu réagis? Est-ce que tu fais ce qu'il y a à faire? C'est-à-dire, est-ce que tu démarres une procédure? Parce qu'on te
Bon,
l'annonce
déjà, quand
clairement, en
on me
fait.
l'a annoncé, moi, c'était le choc parce que je leur disais, OK, quel est le problème? On me disait, non, on ne remet pas du tout, ce n'est pas les compétences qu'on remet en cause ou quoi que ce soit, mais malheureusement, on ne peut pas se permettre de te garder. OK, je leur dis, mais vous me mettez dans une situation où vous mettez un peu ma vie en danger. Je n'ai pas d'assurance. L'amour, ça prend beaucoup de temps pour que je puisse bénéficier de l'amour. Mon traitement, je ne peux pas l'arrêter, juste un seul médicament me coûte 23 000 dirhams, donc comment je fais? Et là, on me dit, oui, on est désolé, on va vous indemniser. Et on va vous indemniser à 100%. OK, donc vous avez de quoi m'indemniser à 100%, mais vous ne pouvez pas me garder en fonction et me donner ça tous les mois. Elle est où la logique? Elle est où, il est où le côté humain? Il est où le... Vous me dites que je fais partie de la communauté, mais juste comme ça, vous me tournez le dos et c'est comme ça. Je demande à garder mon assurance qui coûte 500 dirhams à cet établissement. Je leur dis, je paye de ma poche les 500 dirhams par mois. Non, d'ici fin juillet, vous n'aurez plus d'assurance, c'est fini. Fin de contrat, fin d'assurance. Et voilà, donc c'était...
Il y a beaucoup d'émotions encore dans ta voix, hein, Zinem.
Il y a beaucoup d'émotions parce que je ne trouve même pas les mots pour décrire ce que ces gens ont fait. Et vraiment, je me dis, il est où le côté humain? Et c'est même pas le côté. Je me dis, ça devrait être normal. On ne devrait même pas discuter ça. J'ai travaillé dans cet établissement depuis plus de 9 ans. Et au final, quelles sont les valeurs qu'on inculque déjà aux enfants qui ont fait servir de moi pendant toutes ces années parce que j'étais en bonne santé, mais aussi peut-être que je suis tombée malade à cause du stress que je vivais, à cause de certaines situations que je vivais aussi dans cet établissement. Peut-être que ça aussi, ça a enclenché des choses, mais non, maintenant que vous êtes malade, bah,
On n'a
désolé,
plus
on n'a plus
besoin
de
de vous.
place pour vous. Voilà.
Mais alors, est-ce que tu as entamé une procédure légale face...
Alors, quand on m'a dit qu'on allait me donner tous mes droits, j'ai été justement me renseigner et malheureusement, on m'a dit qu'ils avaient le droit de me licencier. Ils avaient le droit de me licencier, mais que bon, là, il fallait voir à quelle hauteur ils allaient m'indemniser et c'est là que ça se jouait. Mais tout le monde, j'ai vu plusieurs juristes et là, on me disait, écoute, si on te donne un chèque, rien que prends-le et tu
Prends-le.
tournes la page sur ce sujet.
Quand tu dis
Et là,
ils ont
je
le droit,
comprends.
pardon, quand tu dis ils ont le droit de te
Dis-moi.
licencier pour maladie, ça c'est dans quel droit? Est-ce que ces gens-là sont assez assujettis au droit marocain ou là un autre droit d'un autre pays?
C'est le droit marocain. Donc, c'est le droit marocain. Et ils sont pas, c'est-à-dire que dans mon cas à moi, ils ont le prétexte ou le motif était licenciement économique. Donc, c'est ce qu'ils ont annoncé.
Donc ils n'ont pas choisi. Oui,
Alors,
mais tu pouvais contrecarrer avec la réalité. C'est pas un
oui,
licenciement.
je pouvais le faire, mais tu sais, Yasmine, quand tu es dans une situation où tu n'as pas d'assurance, où tu dois débourser de ta propre poche un minimum de 23 000 balles par mois,
Tu choisis finalement de
là,
prendre.
tu as les mains liées, quoi. Voilà. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Et même mon avocat, il m'a dit, écoute, Zineb, si tu n'as vraiment pas les reins solides et que tu n'as vraiment pas les moyens, il m'a dit, prends le chèque parce que la procédure, elle prend beaucoup de temps et tu ne vas pas gagner grand-chose. Hein. Ils ne vont pas te redonner ton boulot, ils ne vont pas te donner plus que bon, un certain montant. Mais moi, ce n'était même pas par rapport à ça. Je me disais vraiment, c'est de quoi est-ce que comment est-ce que je vais payer mon traitement? Donc, j'étais vraiment obligée d'accepter ce qu'on me proposait, cette situation. Mais après, je me disais, écoute, tu ne vas pas t'arrêter à ça. Il y en a. J'ai été d'ailleurs dans un groupe de parole et j'ai parlé de mon cas et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui passent par une situation qui est pire que la mienne. Encore moins dans mon malheur, je suis chanceuse parce que j'ai pu avoir un chèque. Et avec ça, aujourd'hui, je peux aller me payer mon traitement jusqu'à quand, je ne sais pas. parce que ça c'est une autre histoire. J'ai toujours pas d'amour, mon dossier n'a toujours pas été accepté, donc toujours en phase d'étude. Mais à côté, j'ai vu qu'il y avait des femmes qui ont été licenciées et qui n'ont rien.
Alors, par rapport à la situation actuelle que traverse le Maroc, les revendications des Gen Z, et justement, on a tellement entendu de jeunes dire que ça ne touche pas que ces revendications par rapport à la santé en particulier, ne touchent pas que les Gen Z, mais concernent un grand, très grand nombre de Marocains. Si on prend ton cas à toi, Yek, toi, j'imagine, tu as étudié dans une école privée, tu as été aux États-Unis, tu as fait des études, tu as travaillé. Tu pourrais être considérée comme une privilégiée au Maroc. Et pourtant, tu te fais licencier. Et pourtant, tu subis un traitement lourd, financier et chimique. Et tu es dans cette situation où finalement, si la prise en charge avait été gratuite, généralisée, tu ne serais pas dans cette, tu ne te poserais pas ce genre de questions. Tu te retrouves dans ces revendications, toi qui dans la carte postale, tu ne fais pas partie de ceux qui ont besoin, entre guillemets, de ceux qui sont dans le besoin. Tu n'es pas supposé faire partie de ceux qui sont dans le besoin.
Mais quand on est touché par cette maladie, les soins coûtent tellement cher. Que voilà, il y a. Je pense qu'on se retrouve tous dans le besoin.
On se retrouve tous. Au final. Exactement. Exactement.
Voilà, parce que cet argent. Je vais parler même de cette indemnisation. Aujourd'hui, je me dis que je suis sans boulot, mais j'ai aussi une vie à côté. J'ai des charges, j'ai des. C'est-à-dire qu'on m'a donné un chèque, oui, mais ce chèque-là, si je le. C'est-à-dire si je le distribue justement en moi, c'est de l'argent que je vais déposer pour mon traitement, que je vais investir dans mon traitement, dans ma vie, parce que ma vie dépend de ce traitement-là. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il me reste pour vivre ? Donc, il y a encore cette peur. Il y a vraiment cette peur de manquer, cette peur de... Là, je fais partie des privilégiés. J'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi... C'est-à-dire, tout ce qui est basique et nécessaire, alhamdoulilah, je l'ai. Mais même avec ça, je me dis, s'il n'y avait pas eu ce chèque-là, je n'aurais pas les moyens de me payer mon traitement. Et quand bien même, combien de temps est-ce que je vais tenir ? C'est des dizaines de milliers de dirhams qu'on débourse de notre poche. Personne ne nous les donne. On n'est pas pris en charge. Et même quand l'amour se débloquera, je ne serai pas prise en charge. C'est tu payes et ensuite on te rembourse.
On te rembourse. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a l'impression que par rapport à la santé, on a ceux qui arrivent à se faire traiter et ceux qui n'y arrivent pas. Ceux qui arrivent à se faire soigner et ceux qui n'y arrivent pas. Mais face à la maladie, face aux charges, que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, au bout d'un moment, tu n'en as plus. En fait.
Absolument.
Et ça, c'est
ça, au bout d'un moment,
t'en as plus, c'est ça. Et il faut arrêter de croire que c'est uniquement une partie de la population qui est à la recherche de cette prise en charge. Alors, tout le monde. Moi, je dis une chose. La santé et l'éducation, ça appauvrit les gens. Pourquoi ? Parce que tu es obligé de payer pour une éducation de qualité. Et donc, ça te bouffe de ton budget. Et puis tu as la santé ça par contre au bout d'un moment, ça... et quelle que soit ta situation, voilà, au bout d'un moment tu ne peux pas travailler, donc comment s'assurer qu'il est quand même, si tu n'as pas la bienveillance de l'employeur qui te garde ton salaire pendant une période, eh ben, en fait on se retrouve dans une situation comme la tienne, Zineb, tout simplement.
Ben, c'est ça, comme tu as dit, on n'est pas épargné par la vie, ça peut arriver à n'importe qui. Moi j'en vois qui disent c'est du n'importe quoi parce que et comment tu, déjà comment tu pourquoi créer obtenir avec la mentalité on est tous pareils. Comme on dit, mais au final, quand on se retrouve dans des situations comme ça, On est tous pareils. Alors que tu me chies la clinique, quand je vais à la clinique, tu payes avant même que le médecin te voit, avant même de recevoir ton traitement. Ma fille, elle avait dit, tu as une urgence, tu dois te faire hospitaliser. Elle a dit, dis le chèque. Je n'aurai rien d'aide pour vous donner le chèque. Non, c'est un chèque de garantie. Le jour où j'ai voulu me faire opérer, on m'a demandé 8000 dirhams cash d'une pince chirurgicale que je n'ai jamais vue. Ah, ibadallah, la pince chirurgicale. On se fait opérer et on doit payer de notre poche.
En
et
clinique.
Qui n'est pas remboursable. En clinique. Qui n'est pas remboursable. Et même l'hôpital, parce que j'ai été me renseigner, on m'a dit la coach.
Oui, bien sûr. Le débat actuel, c'est que oui, les cliniques te soignent et les hôpitaux, non, les cliniques aussi sont. Oui,
c'est ça.
Mais pourquoi m'obliger à aller me faire soigner en payant? Si le système.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat. Oui, justement, c'est le débat actuel. C'est le débat actuel, exactement, à la base.
Oui.
Ta prise de parole aujourd'hui dans Femmes d'aujourd'hui, tu souhaiterais avoir quel impact à travers cette prise de parole?
Aujourd'hui, si j'ai envie de briser ce silence, c'est. À un moment, je me dis, mais si je garde ça pour moi, rien ne va changer. Et j'ai vu à l'association d'Arbour, pendant notre groupe de parole, que les gens ont peur de parler. Donc, si moi j'ai peur de parler, que l'autre a peur de parler, le changement ne se fera pas. Le cancer ne nous définit pas. Et il n'y a pas que le cancer, ça peut être n'importe quelle maladie.
Bien sûr, absolument.
La maladie ne nous définit pas. On a juste besoin de travailler dignement. Si je dois m'absenter ou la m'arrêter, c'est pour une raison. On ne le fait pas exprès.
Exact.
On n'a pas choisi. Mais que l'employeur soit flexible, qu'il nous soutienne. Parce qu'après tout, le travail, comme je dis, on dit le travail, c'est la santé. Et au final, moi, le travail, c'est ce qui me donnait l'envie de me réveiller tous les matins.
Zineb Hajar, merci beaucoup pour cette prise de parole.
Merci à toi, vraiment. Merci, Yasmine.
Merci pour tout.
Merci de m'avoir donné cet espace pour témoigner. J'espère que ça permettra d'apporter ne serait-ce qu'un petit changement.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.